Merci d'écouter France Culture. Il est 12h45. C'est l'heure de vous retrouver, Maëlys Bessery, pour la grande table d'été.
Eh oui, merci Maxime. Bonjour à tous, la grande table d'été suit les chemins des festivaliers. À 13h50, François Sureau sera devant l'abbaye de Saint-Vendry pour évoquer l'écrivain voyageur Patrick Lee Fermor. Mais avant cela, cap sur Nantes où se tient la 9e édition du voyage qu'il occupe tout l'été. Un parcours d'art contemporain qui traverse la ville, jalonné de bons génies à gris-gris, de lits aquatiques, de statues féminines remplissant des bassins. Nantes livre l'espace public aux artistes, libres d'intervenir, de poser leur imaginaire sur l'histoire des lieux et des murs. Un voyage qui, en retour, place les œuvres à portée de main des habitants et voyageurs. Le week-end, on a vu un rideau d'eau transformer le théâtre Gralin en cascade, le temple du goût se recouvrir de tartines étagères, de balais à perruques, les robots de la Hab Galerie suivre de près une partition. Leurs créateurs sont aujourd'hui autour de la grande table, Stéphane Tidé, Vincent Olinet, Martine Feppel et Jean Béchameil. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors vous êtes emblématique du voyage à Nantes, artiste parmi les artistes exposés. 56 points, je crois, de visite dans ce parcours nantais. Et une manière aussi de revisiter l'espace public. Stéphane Tidé, on a vu ce théâtre se recouvrir d'eau, d'un grand rideau extérieur. Peut-être quelques mots sur cette idée de s'emparer de ce théâtre de la place Gralin.
Oui, ben quand le voyage à Nantes m'a invité à proposer un projet, il m'a désigné cet emplacement, c'est-à-dire la place Gralin. Et très vite, j'ai souhaité me mettre en relation avec cette idée du spectacle, de la scène, et plutôt que d'essayer de considérer ce qui se passe à l'intérieur du théâtre, plutôt le faire glisser, le faire sortir, et que l'architecture du théâtre devienne scène lui-même. Et ainsi, la place devient une sorte d'amphithéâtre. Donc j'ai souhaité proposer une sorte de grande cascade d'eau, qui s'écoule de la toiture du théâtre
et juste et devant les muses hein,
les muses tout à fait et qui on va dire qui frappe les escaliers de du théâtre en un certain fracas.
Alors pour en rester à l'espace public, plusieurs lieux justement sont investis. Vincent Olinet, alors vous il y a trois lieux. Alors dans les lieux publics, il y a d'abord le canal.
Le canal
sur lequel flotte un lit.
Voilà, un lit à baldaquin qui s'appelle Pas encore mon histoire et qui a été installé la semaine dernière et qui va rester tout l'été à Nantes, à flotter sur le canal.
Si les visiteurs cessent d'y grimper.
Si les visiteurs cessent d'y grimper, exactement, pour que les autres puissent faire aussi des photos.
Alors c'est aussi ça, hein, une exposition dans les lieux publics, c'est aussi la manière dont le public peut en faire l'expérience physique, sensorielle aussi. Il y a une œuvre aussi qui est en public, Martine Feppel et Jean Béchameil. Il y a certes la galerie qui est un peu plus protégée, la Hab Galerie, mais il y a aussi les brutalistes qui sont en extérieur, sur une place également.
Oui, exactement. Ils sont sur la place Clémence Lefebvre, qui est une place assez récente, entièrement nouvelle, construite d'une architecture. Et donc, nous, on a fait cette œuvre pour cet endroit spécialement. Et donc, pour nous, c'était aussi un peu l'idée de placer une œuvre, donc une sculpture, mais aussi de faire une œuvre qui participe un peu du quotidien et que les habitants puissent s'approprier. Donc, c'est des sculptures, mais ils sont aussi implantés de fours à feu, enfin, oui, à bois, donc pour faire cuisiner, en fait, faire du pain, des pizzas, etc.
Jean Béchameil, il y a une école juste devant qui va pouvoir utiliser, alors les habitants aussi peut-être, ces fours qui vont être en fonctionnement au mois de septembre ?
C'est ça, c'est en fait une coopération entre l'école Vatel et les habitants du quartier qui vont pouvoir donc utiliser ces fours et expérimenter des nouvelles comment dire, pratiques culinaires sur la place elle-même. Vraiment au milieu des immeubles, ce qui est assez compliqué normalement parce que c'est vrai que c'est quand même des fours à bois, mais ça a été très, très bien accepté par l'ensemble des habitants. Et voilà.
Donc être spectateur, ça voudra dire aussi avoir les odeurs de ces fours-là, faire l'expérience
voilà,
de l'utiliser comme un objet du quotidien.
Exactement.
Oui, enfin, c'est pas au quotidien. Enfin, c'est un peu aussi, c'est des événements qui vont se passer par moment. C'est pas tous les jours non plus. Donc, c'est régulièrement, il va y avoir des célébrations. Donc, c'était aussi l'idée de créer une plateforme qui permet justement de se rassembler autour d'une célébration ouverte à tous les habitants du voisinage.
Stéphane Tidé, ça faisait partie aussi, vous travaillez aussi beaucoup de cette manière-là, de s'emparer de l'espace public, amener l'eau dans ce théâtre-là, emmener l'eau, mais aussi ses embruns, puisqu'il y a un système, peut-être vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, il y a aussi la force de l'eau et puis le vent qui permet un usage dans toute la place en réalité de cette eau-là. Elle ne reste pas sur les carrelages du théâtre, ni sur les marches.
Tout à fait. Moi, je tiens beaucoup, en tout cas dans mon travail, à ce que les œuvres se débordent un peu d'elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas juste à une certaine distance, mais qu'elles aient aussi une sorte de transpiration. C'est-à-dire que là, il y a non seulement ce que l'on voit, mais il y a aussi ce que l'on ressent. Il y a cette fontaine, je dis fontaine parce que ça explique aussi son fonctionnement, c'est-à-dire que c'est une boucle d'eau, c'est-à-dire l'eau tombe dans un bassin et remontée sur la toiture du théâtre et donc fabrique cette forte chute d'eau. Et donc dans cette chute d'eau, un grand déplacement d'air se fait, puisque l'eau s'écoule depuis très haut, à peu près 12-13 mètres, et fabrique un vent qui, je dirais, presque climatise l'ensemble de la place. Les gens s'y mettent devant aussi pour ressentir l'eau, la fraîcheur, mais surtout aussi la puissance du vent qui se retrouve ainsi là, au cœur de la ville.
Alors l'expérience, elle est multiple, puisqu'il y a se trouver sur la place, se trouver devant le bassin, qui est provisoire.
Le bassin est provisoire, tout à fait.
Devant le théâtre, il y a aussi passer derrière le rideau.
Ouais, tout à fait. C'était important pour moi qu'on puisse aller derrière la cascade. C'était aussi une des origines du projet aussi. Il y avait cette idée que cette légende qui raconte que les trésors se cachent souvent derrière les cascades d'eau. Et c'était pour moi important de considérer le théâtre de cette manière-là et de faire passer le public par derrière cette chute d'eau.
Avec un univers presque mythologique, en tout cas, qui fait référence aussi aux contes. C'est peut-être la dimension hors champ.
Oui, tout à fait. Oui, mais la question des récits habite en général pas mal mon travail. Et c'est j'aime la cultiver avec peut-être juste des petits éléments. Finalement, j'appelle ça des petits éléments. Ils peuvent prendre une certaine taille lorsqu'il s'agit d'être à l'échelle d'une ville, mais ça reste finalement des petits gestes qui racontent, j'espère, un peu plus.
Alors, il y a aussi l'idée d'une scène dans ces escaliers-là. On a vu des passants même s'embrasser derrière ce rideau longuement samedi dernier. Ils deviennent eux aussi acteurs sur cette scène fabriquée. Le théâtre est aussi à l'extérieur.
Oui, c'est vrai que je rajoute, enfin quelque part, la présence des corps n'est jamais dans mon travail parce que je considère la présence du public finalement habitant une situation, une installation, et donc j'envisage les gens se promener, habiter en fait l'œuvre. Donc il y a ce jeu un petit peu de transparence entre les gens devant et les gens derrière, peut-être même un certain érotisme architectural.
Avec des jeux aussi de brillance et de lumière, comme ça tombait bien cette eau-là amenée sur la place en cette période de canicule. Je vous propose d'écouter une archive de Jean-Louis Barrault, c'était dans Le Masque et la Plume sur France Inter en 1972.
Je trouve qu'un regard ne vient pas de l'œil. Ce qui fait le regard de quelqu'un, c'est la paupière. Eh bien, le rideau de la scène, c'est la paupière du théâtre. Et quand le rideau se lève sur quelque chose, sur un monde de rêve, ça, c'est une chose merveilleuse. Et il est évident aussi que le cinéma a capté un peu pour lui le domaine du rêve. On rêve plus facilement au cinéma qu'au théâtre. En revanche, le théâtre garde pour lui cette présence charnelle, ce coït collectif. C'est la représentation de l'acte charnel, de l'acte amoureux. On est tous ensemble et on se mange tous ensemble. C'est le repas métaphysique que l'on fait ensemble. C'est une communion métaphysique, la communion véritable, essentielle.
Stéphane Tidé, vous avez promis des surprises, vous n'êtes pas déçu. Hein. Le rideau serait une sorte de paupière.
C'est joliment dit.
Vous en pensez à ça, hein, le théâtre.
Oui.
Il se trouve derrière votre œuvre.
En ce sens où le rideau est un marqueur temporel aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a le début et l'après du rideau, il marque une fin ou un début, et je pense que c'était important pour moi aussi de marquer ce temps, qu'il y ait voilà, le moment où ça s'ouvre, le moment où ça se ferme. Et je trouve qu'il est important aussi qu'il y ait ce rythme dans une ville, qu'on ne s'habitue pas aux choses et qu'à un moment, un événement arrive, un événement se termine. Voilà. Et parfois, on s'y retrouve pour l'attendre. Il y a voilà, c'est une volonté aussi que toute œuvre n'appartienne pas seulement à une question matérielle, mais aussi à une question temporelle.
Alors cette question temporelle, Vincent Olivier, vous la travaillez aussi à votre manière. Il y a cette manière de revisiter les natures mortes à travers des vidéos. Mm-hmm. Il y en a deux, une à l'Hôtel de France et une autre au Temple du Goût. Parlez-nous de ces natures mortes en mouvement très très lent.
Alors ces natures mortes sont des compositions avec des éléments qui ont l'air d'être en cristal, en verre et qui sont disposés sur une table avec des fruits et des fleurs. Mais tout a été glacé, y compris le cristal, donc c'est de la glace. Les fleurs ont été congelées, les fruits ont été congelés, ce qui amène l'œuvre à fondre très rapidement et à se décomposer très rapidement.
Alors très rapidement, quand vous dites très rapidement, c'est une vidéo de 4 heures.
C'est une vidéo de 4 heures, c'est ça. Au Temple du Goût, c'est une vidéo de 4 heures, donc on voit la fonte en temps réel, qui amène aussi une interrogation par rapport à la temporalité de l'œuvre, mais aussi à la patience du spectateur sur sa volonté de voir ou non l'œuvre en entier, ou de revenir plus tard et de voir l'évolution. Et celle à l'Hôtel de France a été accélérée 8 fois, et donc on peut la voir, on peut la contempler sur une demi-heure. Pour qu'on ait quand même encore un rythme qui ait l'air naturel de fonte, et que quand même, voilà, on puisse assez rapidement voir des évolutions dans la fonte des boules glacées, enfin il y a de la crème glacée, il y a des fruits et qu'on voit quelque chose évoluer.
Alors, la question éphémère, elle traverse aussi le vivant puisque vous travaillez effectivement avec des éléments qui rappellent le monde de la nature et de la nourriture, des vraies fleurs.
Oui,
peut-être vous pouvez nous parler de l'Hôtel de France et de ce papier peint qui certes est peint mais qui dont les fleurs sont des vraies fleurs vivantes.
Oui, alors à l'Hôtel de France, il y a ces deux grandes niches à gauche et à droite de l'entrée, deux grands portails de 5 mètres de haut dans lesquels j'ai disposé des papiers peints que j'ai peints sur un papier canson avec la peinture acrylique, mais dont le motif est complété avec des fleurs fraîches qui ont été piquées dessus et qui seront changées chaque semaine. Donc on peut voir des fleurs fraîches ou on peut voir des fleurs fanées, ça dépend à quel moment on se présente devant l'œuvre. Et c'est aussi cette question de la temporalité toujours, et puis de la question du motif aussi. Comment est-ce que la peinture se complète, etc., dans une sculpture finalement, parce que ça reste une sculpture, et d'avoir comme ça ces deux grands papiers peints avec leurs fleurs présentées à l'entrée.
Alors, on sent aussi ce rappel, alors certes de la nature morte des maîtres flamands, alors complètement détourné, mais aussi un rappel du rococo, du baroque. Il y a aussi un baroque nantais.
Oui, il y a un baroque nantais, c'est ce que j'ai appris avec le Temple du Goût. Donc c'est un lieu qui a été construit au XVIIIe siècle et qui, un peu peut-être par dérision ou ironie, a été surnommé le Temple du Goût par les habitants. Et ça m'a tout de suite inspiré, cette question du goût, du bon goût, du mauvais goût. Et la question du baroque et donc du baroque nantais avec cet excès dans l'architecture, cette surenchère d'éléments et aussi cette recherche très organique, très florale de la construction. Comme si ce qui était fabriqué par la main de l'homme redevenait quelque part naturel. Et c'est dans cette énergie-là que j'ai complété le Temple du Goût en y mettant une rangée de volutes de crème chantilly pour souligner en plus l'architecture à l'intérieur du lieu et d'autres pièces autour de la nourriture et des fleurs. Oui.
On va vous proposer une archive de Jean-Claude Binoche. C'était dans les Nuits magnétiques de France Culture en 1981.
Le style nouille est un style qui n'est plus actuel, qui n'a pas d'intérêt autre qu'un intérêt d'antiquaire, mais qui ne doit pas nous inspirer pour les créations de demain. Mais par contre, il est intéressant dans la mesure où il marque une époque, 1900, qui est une époque riche, un peu comme celle que nous vivons aujourd'hui, et une époque où le baroque devient indispensable, le compliqué devient indispensable, et je pense que dans les années qui viennent, et qu'on va connaître, on a ce même besoin. C'est-à-dire que on va, je pense, les créateurs vont sûrement s'orienter globalement vers une création beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus baroque, beaucoup plus sympathique, beaucoup moins froide que celle que nous venons de connaître. Pour conclure, on peut dire que après le style nouille des années 1900, le style nounouille des années actuelles, on va peut-être connaître un style post-nouille qui sera très intéressant à surveiller.
De la déclinaison du style de la nouille, Vincent Holliday, pour en revenir au baroque et réagir sur le baroque, parler des moments où le baroque devient indispensable et le compliqué devient indispensable, en tout cas moins froid. C'est ce thème-là aussi que vous travaillez. Comment est-ce qu'on revisite le baroque? Comment on garde ce surplus? On parlait de trop-plein tout à l'heure avec Stéphane Tidé.
C'est vraiment jouer avec la transgression et l'envie d'en faire un maximum et de se dire finalement il y a peu de limites où il y en a pas, c'est celle de notre patience et des matériaux qu'on utilise qui fixeront la limite. Donc vraiment poursuivre l'énergie de ce baroque et le compléter jusqu'à ce qu'il craque presque et arriver à cet état de tension dans l'œuvre et dans les œuvres présentées.
Tout en gardant une esthétique très forte, peut-être faudrait qu'on décrive un peu ce qui s'y passe. Il y a un mur de tartines colorées dans des couleurs de confitures imaginaires qui n'en sont pas mais qui les évoquent quand même.
Oui, dans ce temple du goût, j'ai occupé le lieu avec près de 1000 tranches de pain qui sont faites en résine évidemment, mais qui ont été d'un côté utilisées comme étagères et d'un autre utilisées en bardage ou en tuilage, donc on retrouve verticalement sur le mur, et ensuite qui ont été complétés avec du miel, la confiture, du beurre qui se dégouline dessus jusqu'à arriver comme ça une espèce de composition à la fois séduisante, enfin appétissante et presque dégoûtante, et d'arriver à maintenir cet équilibre dans les autres pièces qui sont présentées avec entre autres un lustre très baroque, très rococo et toutes ces pampilles en cristal, et puis donc cette chantilly qui est disposée dans le lieu et le papier peint à nouveau qui comme ça rejoue les codes très classiques d'une culture baroque et culture française.
Avec un mélange de culture populaire et de culture patrimoniale, c'est aussi peut-être l'idée, quand on s'approprie une ville et des lieux publics, que de jouer avec cette culture, cet hôtel particulier du 18e. Vous y mettez aussi bien Virginia Woolf que des éléments de culture populaire.
Oui, complètement. On y retrouve aussi une série de ballets qui ont été faits avec des manches à ballets trouvées dans la rue et des perruques ou des rajouts, des extensions capillaires qui viennent les transformer en ballets et qui interrogent aussi un peu sur la question de l'air du temps et quelle est la coiffure contemporaine et quelles sont les couleurs tendances pour ceux qui veulent porter des cheveux colorés. Et oui, donc d'interroger tout ça et d'avoir cet ensemble.
Alors vous, Martine, Fépel et Jean Béchamel, vous êtes emparé de la galerie, la Hab Galerie, pour y poser un univers robotisé qui interroge aussi l'air du temps, mais un air du temps extrêmement coordonné, puisque c'est une grande partition de 20 minutes qui se joue, je crois.
C'est ça, oui. C'est une partition de 20 minutes qui se répète, du coup. Et en fait, pour ce travail, on est un peu parti de visites d'usines qu'on a fait et où on s'est rendu compte que ces usines sont aujourd'hui complètement automatisées. Et donc, ça nous a plongé dans une interrogation, en fait, sur cette industrie, sur cette automatisation de l'industrie et sur comment cette technologie, en fait, influence notre rapport à l'espace, au travail, à la société. Et donc, on a voulu s'emparer de cette technologie pour créer un ballet automatisé. Donc, on est parti d'abord d'une partition comme pour un opéra ou une partition musicale qu'on a écrit et qui à la seconde près donc détermine quand les mouvements, les sons, les lumières se déclenchent.
Alors c'est presque une ville dans la ville, Jean Béchamel, qu'on retrouve, hein, puisqu'une sorte de ville automatisée, coordonnée par une grande table de contrôle qui elle-même est exposée.
C'est ça, on a choisi de montrer tout le système. Aussi parce qu'en fait, on a vraiment délibérément choisi d'apprendre le langage de la robotique moderne, de s'en emparer, d'en faire quelque chose de ludique, mais quand même
Comme vous dites, le langage, c'est la programmation.
Toute la programmation, les systèmes de contrôle, de branchement, etc. Et donc, on avait choisi vraiment de montrer cette table comme un peu de la montrer comme une petite ville, effectivement, avec toutes ces connexions et tous ces systèmes extrêmement compliqués, plutôt que de cacher le système tel qu'il est caché aujourd'hui dans la plupart des systèmes industriels, qui est vraiment très secret, très mystérieux.
Alors ce que l'on retrouve de l'idée, en tout cas informatique, de partition, c'est certes cette coordination, cette chorégraphie entre les robots, hein, qui sont proches des automates d'une certaine manière, mais c'est aussi cette codification des formes géométriques et des couleurs. Jean Béchamel, peut-être vous pouvez nous parler de ça.
Bah, on a voulu reprendre beaucoup des thèmes de la modernité et des futuristes qui étaient un petit peu, qui étaient toujours intéressés par cette idée d'un mouvement, d'une mécanique parfaite. Mais en l'occurrence, là, il s'agit plus de mécanique, il s'agit vraiment de robotique. C'est-à-dire, c'est complètement un autre univers. C'est un univers où il y a pratiquement pas d'erreurs ni de problèmes possibles une fois que c'est réglé. Donc c'est assez étonnant. Nous, on a visité beaucoup d'usines et dans ces usines aujourd'hui il y a pratiquement personne, hein. Je dis, il y a quelques personnes derrière des joysticks et des écrans, mais tout ça marche très bien tout seul. Il y a même des usines au Japon qui ont plus de chauffage ni de lumière dans les hangars, donc c'est quand même assez étonnant.
Alors c'est aussi de créer des interactions entre les œuvres elles-mêmes, puisque une va faire un quart de tour quand une autre en fait un demi.
Oui, c'est vraiment une chorégraphie.
C'est une vraie mise en scène aussi. Donc c'était aussi, enfin, donc tout participe. Donc il y a les sculptures, il y a les œuvres, il y a le mouvement, il y a donc le son qui est aussi très important dans l'installation. Il y a les lumières et donc.
Alors vous parlez du son, peut-être expliquez-nous. Il y a une grande cloche qui souffle des sons de manifestation,
oui,
notamment
c'est ça,
d'explosion.
Ouais. D'explosion. Ouais. Des sons qu'on a repris des grandes manifestations récentes, d'ailleurs.
C'est aussi une œuvre qu'on s'est réappropriée, qu'on avait fait au départ, qui était suspendue avec son sang, en fait, suspendue au-dessus de bassins d'eau noirs qui reflétaient la cloche. C'était au creux de l'enfer, à Thiers. Et donc, c'est une œuvre qu'on s'est réappropriée, qui ici est par terre et émet des sons. Et c'est des sons de manifestation, mais aussi de cloches qui un peu sonnent la fin de quelque chose, comme un peu une idéologie qui se fait démonter par une autre, donc une sorte de mise en abîme.
Qui va un petit peu avec la statue de Lénine décapitée ?
C'est ça,
c'est
ouais.
Ça.
Oui, la sculpture de Lénine, c'est une reproduction d'une sculpture qui existait en Ukraine, qu'on a reproduit, qu'on a moulé, qu'on a donc tiré un exemplaire avec où le cœur, en fait, il est remplacé par un robot.
Qui tourne.
Et aussi, la sculpture, elle est creuse derrière. Donc, c'est ce qui nous plaisait beaucoup dans cette sculpture, c'est qu'elle était. Elle a été vandalisée.
Elle a été décapitée en 2013.
Été, voilà, exactement. Ça. Mais elle n'a pas été arrachée. C'est une coupe nette et le personnage va toujours de l'avant avec un certain élan. Et donc c'est vraiment un peu un symbole pour ce leader, cette révolution, mais aussi la contre-révolution, l'homme. Parce que c'est aussi cette sculpture, elle place quand même l'homme au centre des préoccupations de cette exposition. Et voilà, donc son cœur, il tourne orchestré par cette table dont on parlait tout à l'heure, d'après la partition, et donc il est creusé de sa substance, de son contenu. Donc
avec une dimension politique forte, il y a aussi ce haut-parleur qui repère les tsunamis au Japon, si je ne m'abuse.
Oui, en fait, on a beaucoup travaillé sur cette idée justement dont parlait Lénine et qui était emparez-vous des moyens de production. Nous, on avait vraiment envie de s'emparer des moyens de la production moderne, c'est-à-dire de la robotique moderne. Donc c'est vrai que
vous avez d'ailleurs appris à ces fins-là en amateur, en autodidacte.
En autodidacte, avec l'aide quand même de gens qui ont bien voulu nous aider parce que c'est quand même assez compliqué, mais on l'a appris et c'était vraiment un plaisir de pouvoir écrire un mouvement ou de pouvoir écrire toute une scénographie dans l'espace et de l'écrire et d'appuyer sur play et ça marche. C'est vraiment extrêmement curieux, quoi.
Avec des moteurs achetés d'occasion, c'est ça ?
C'est ça, c'est aussi. Voilà, donc c'est au début, en fait, quand on a commencé ce travail, c'était il y a 5 ans, on a un peu acheté ces robots et ces serveurs un peu à l'arrache sur Internet. On ne savait pas vraiment comment s'en servir, donc on cherchait que quelqu'un nous explique. Et on avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un, d'ailleurs, mais finalement, on a trouvé. Et puis, on a appris donc à les programmer nous-mêmes. Donc, c'était aussi pour nous important d'avoir cette expérience vraiment physique et pratique par rapport à ça. Et pour nous, c'est aussi un peu comme une sorte de prise de possession de cette technologie pour faire autre chose, pour faire quelque chose de non productif, une prise de possession un peu sauvage, parce qu'on est vraiment parti un peu sauvagement dans cette aventure.
Sur les marchés d'occasion, de la robotique japonaise, surtout chinoise.
Sauf que les moyens de production, là, ils deviennent des moyens artistiques,
voilà.
Des moyens poétiques. Ouais, on va peut-être écouter les sons qui sont diffusés dans l'exposition. Il y a La nuit sans lune, vous allez nous en dire quelques mots.
Au cours des 45 dernières années, la France a perdu annuellement 52 000 emplois industriels. soit près de 2,5 millions d'emplois.
Actuellement, on compte 11 millions d'inactifs en France.
L'an dernier, 294 000 robots industriels ont été vendus dans le monde. En 2020, le parc de robots industriels devrait dépasser 3 millions d'unités.
Alors que la production s'est emballée ces 50 dernières années, le travail humain s'est parallèlement réduit.
Jean Béchamel, c'est cet état du monde chiffré qui nous est livré aussi. Et là, c'est toujours l'œuvre politique qui est en marche dans ce travail sonore, lu par des comédiens, je crois.
Non, c'est nous qui le lisons.
C'est vous ?
Oui, c'est nous qui le lisons.
C'est Jean qui lit, c'est moi qui chuchote.
C'est un travail de comédien quand même.
Oui. Mais on travaille souvent avec un studio de son avec lequel on fait tout le son de nos sculptures, en fait. Et parce qu'on associe beaucoup le mouvement à des sons et à des compositions. Donc on travaille souvent avec ce studio.
C'est le studio Think and Talk. Ouais. Et c'est d'ailleurs Chris Christoffels qui a fait la composition de l'orgue sur cette pièce et qui nous a aidé à, enfin, qui ont créé tous les sons de l'exposition. Et ce travail-là, il a été la première fois produite pour la Nuit Blanche en 2019 et montré à la chapelle de la Congrégation du Saint-Esprit.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'était aussi pour ça que, en fait, dans cette configuration, l'orgue était joué en live toute la nuit. C'était aussi par rapport à cet endroit qu'on avait envie d'utiliser l'orgue. Et puis, il y avait cette cloche démontée, posée par terre, qui annonçait un peu une sorte de mise à nu de notre société, de ce qu'on consomme, de ce qu'on fait, de comment on agit et chiffré, comme vous dites.
Alors, une autre référence que l'on retrouve, c'est celle de l'architecture, du Corbusier notamment, à la fois dans la première œuvre que l'on voit dans la Habe Galerie, cette œuvre, ce plateau qui se transforme sans arrêt avec des formes géométriques qui forment un espace modulable et qu'on retrouve aussi chez les brutalistes dans les références aux couleurs et à la géométrie.
Bah alors là, pour le coup, c'est une vraie machine à habiter puisque c'est vraiment une machine qui bouge.
Mais là aussi, c'est politique, c'est la référence au Corbusier.
Bien sûr, parce que le Corbusier avait aussi envie d'habiter ces espaces de la modernité de façon différente, de façon plus... je dirais intéressante que juste une ode à l'électroménager. Il avait vraiment sans doute une vision, je dirais futuriste presque, de ces endroits, ces espaces.
Nous, on a vraiment aussi une fascination avec cette modernité, une fascination. Et puis voilà, donc aussi un questionnement, bien sûr. Mais cette œuvre-là, elle est vraiment partie d'un dessin de Corbusier qu'on a déjà déconstruit à travers le dessin et ensuite... qui se déconstruit, qui se recompose en permanence à travers les trois mouvements qui l'habitent. Donc, ouais.
Je vous propose d'écouter une archive du Corbusier. C'était en novembre 1962 sur la RTF.
Dans les premières maisons que j'ai faites, il y avait le spirituel de la volonté de faire de la géométrie quelque chose de supérieur, et rien qu'avec ça, n'est-ce pas ? Bien, c'était un événement spirituel. D'ailleurs incompris de beaucoup de gens, y compris par les amis, c'est pas ceux qui aimaient ça. Mais il y avait un événement intense. Et c'est avec une caisse à savon faire un palais. Et alors après, le béton s'étant développé depuis 1920 jusqu'à 1960 en 40 ans d'une manière prodigieuse, permettant de faire des voiles, des courbes, des surfaces gauches, etc. Ce qu'on ne savait pas faire avant, le béton d'Auguste Perret, de la rue Franklin, etc., c'était de la charpente en bois, n'est-ce pas ? C'était là le même point de départ. Tandis que maintenant, avec le béton, on fait des formes comme plus que des œufs d'autruche, on fait des œufs dégingandés de tout ce que vous voudrez, des formes gauches, n'est-ce pas ? Eh bien, alors je profite de ces ressources, pourquoi pas ? Ça m'amuse, ça m'intéresse.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Jean Béchamel ?
Les œufs d'autruche. Ouais, les œufs d'autruche dégingandés, c'est pas mal. C'est vraiment. Non, mais c'est vraiment marrant d'entendre sa description aussi. C'était vraiment aussi quelqu'un qui s'est emparé des techniques de son temps, hein, parce que c'est quand même, il a travaillé pour Perret et Il a vraiment développé au-delà de juste le voile de béton, c'est vrai, une géométrie. Et c'est ça qui nous intéressait aussi en reprenant certains de ses dessins. C'est vraiment, il y a un travail de la géométrie comme ça, très simple, très épuré, qui est vraiment incroyable quand même.
Quand on parle des matériaux, Stéphane Tidé, vous avez choisi d'apporter un élément. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce geste? Ça vous est arrivé à plusieurs reprises de travailler avec l'eau, à travers détournements, à travers solitaire, d'autres œuvres passées. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce geste-là que vous considérez comme un geste de sculpture, je crois? C'est ça?
Alors déjà, vous avez très justement nommé des éléments plutôt que des matériaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis sensible, c'est-à-dire quand j'utilise de l'eau, du vent, dès que je travaille avec des forces qui appartiennent souvent à des environnements naturels, ou que je travaille directement avec du vivant, comme il m'est arrivé avec des loups, avec des plantes.
Des troncs d'arbres.
Des troncs d'arbres, tout à fait. Je crois qu'il y a quelque part, je pense, dans mon envie... peut-être d'être dépassé, que les choses m'échappent, qu'à un moment une vie se crée en dehors de mon contrôle. C'est fort possible qu'il y ait ce petit fantasme, en fait, qui, je pense, appartient à beaucoup d'artistes.
Est-ce que vous avez travaillé en particulier sur cette référence du théâtre, outre la symbolique du rideau, ce théâtre bien particulier, très minéral, avec ses muses, un théâtre massif comme ça, ou est-ce que le jeu, c'est comme sur une feuille blanche, c'est-à-dire se dire « Ah, il y a telle hauteur, je vais pouvoir jouer de telle et telle force. » Est-ce que vous avez l'impression d'apposer votre imaginaire sur celui de l'œuvre en place, ou est-ce qu'il devient une page blanche?
Je crois que je l'ai considéré comme une page blanche, dans le sens où je me suis peu, finalement, intéressé à ses caractéristiques architecturales. Il était important de le faire vrombir, de le faire sonner.
Dites-nous ça. Vous dites ça parce qu'on entend, cette cascade. Hein. C'est aussi un paysage sonore qui apparaît.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on l'entend de loin. On l'entend déjà au bas de la rue. On va dire de la place Royale à la place Gralin. On entend déjà. Et lorsqu'on s'approche, ça devient de plus en plus fort. Donc oui, il y avait cette envie de rendre ce théâtre vivant à l'extérieur et quelque part. Peu importe son architecture. Ceci dit, je dis peu importe, c'est peut-être un peu mentir parce que cette enfilade, cette colonnade aussi et cette verticalité a sûrement induit ma volonté de proposer une chute d'eau. Je pense aussi que les marches, c'est-à-dire que peut-être une des choses qui m'a vraiment poussé à faire ce projet, c'était d'imaginer une chute d'eau s'écoulant de marche à marche. Donc avant même qu'elle chute du toit, il y avait c'est comme une cascade ou comme un ruisseau, quelque chose qui dévale en fait, et plutôt qui monte les marches, mais qui les descend avec une certaine rapidité.
Alors l'idée de la force a induit un travail immensément technique aussi, c'est-à-dire pour que le rideau soit uniforme, il faut qu'il coule d'une certaine manière au-dessus du théâtre. Il faut imaginer tous ces effets, et c'est un travail aussi en collaboration qui se passe. Alors comment est-ce que vous travaillez sur ces éléments-là en amont?
Alors, j'ai travaillé avec déjà, il y a une direction technique qui travaille avec le Voyage à Nantes, avec qui on a tissé une relation de confiance. Donc c'est aussi une facilité comme ça de mettre en place des éléments aussi techniques. J'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Crystal Group, qui m'accompagne sur beaucoup de projets dès que je travaille avec de l'eau, de la glace ou des choses liées à l'éphémère. Donc tout s'est fait finalement assez facilement dans une période un peu complexe, puisque le projet a été développé en plein confinement, donc il fallait aussi être dans un rapport finalement d'habitude, de savoir ce qu'on cherchait, même à distance. Ma volonté, c'était de toucher le moins possible au bâtiment, c'est-à-dire dans son dessin. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau disparaît, on ne retrouve quasiment presque rien d'apposé, ou alors les seules choses qui restent soient vraiment de la même nature, c'est-à-dire de la même typologie d'architecture. Donc on peut voir le bassin qui reste encore lorsque l'eau est éteinte, mais ce bassin reprend l'aspect rectiligne de cette architecture et finalement il la continue d'une certaine manière.
Alors il y a cette notion d'éphémère que vous avez évoquée, c'est une œuvre vouée à être éphémère, c'est d'ailleurs ce qui se passe pour un certain nombre de vos œuvres. Comment est-ce que vous fonctionnez avec ça, Stéphane Tidé, en tant qu'artiste? Est-ce que ça fait partie de l'œuvre que d'être éphémère, que d'en garder simplement des traces vidéo, photographiques, etc. Est-ce que ça fait partie de l'expérience de l'œuvre? Comment est-ce que vous travaillez avec ça? Ou est-ce que c'est une des contraintes de travailler sur des monuments?
Je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Il me semble ne pas encore vraiment y répondre, mais ce que je peux à peu près ressentir, c'est que je ne suis pas sûr que les œuvres matérielles soient plus pérennes que les œuvres, que les histoires, par exemple.
À long terme, nous sommes tous morts, œuvres comprises.
Voilà, tout à fait, de toute façon. Mais voilà, et notamment des événements récents, par exemple, me font dire est-ce que les statues de Palmyre sont plus pérennes qu'une histoire. Donc déjà, j'entreprends peu la chose de cette manière. Ce que j'aime, c'est le début et une fin dans un contexte précis, parce qu'alors, il y a encore la surprise.
Là, il y a un élément narratif dans ce que vous dites, hein. Il y a un élément narratif qui est celui de l'œuvre aussi, comme une histoire racontée.
Oui, tout à fait. Il y a aussi réveiller un théâtre, lui redonner du spectacle, visible de l'extérieur, le ranimer d'une certaine manière, surtout dans cette période, même si le projet, je ne l'ai pas pensé de cette manière-là, en cette période où beaucoup de spectacles vivants restent endormis. Donc, ça a pris, je dirais, une certaine couleur, une certaine force à laquelle je ne m'attendais pas, bien évidemment, mais qui me touche maintenant, aujourd'hui. Non, et puis la question de l'éphémère, je crois que j'ai toujours été très interloqué, attiré peut-être finalement de la manière avec laquelle on offre un bouquet de fleurs, quelque chose qui va finalement petit à petit s'éteindre.
Où tout est dans le geste, alors.
Voilà, tout est dans le geste, et puis peut-être c'est ce court terme finalement qui est dans lequel réside une certaine beauté, parce qu'une fragilité, il me semble que c'est important, ouais. Enfin, j'aime souligner cela, ouais.
Peut-être un mot sur l'échelle. Le côté éphémère, il vient aussi de l'échelle peut-être qui a été choisie. Il est difficile d'avoir une œuvre pérenne quand on travaille sur un théâtre qui est encore en activité, généralement dans la ville, pas en ce moment, mais en temps normal, oui. Vous travaillez à l'échelle du bâtiment.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire l'échelle 1, ce que vous appelez l'échelle 1.
Ouais, oui, c'est-à-dire que
expliquez-nous. Vous ne modifiez pas les échelles. Vous n'êtes pas Alice au Pays des Merveilles.
Non, je ne sais ni agrandir, ni réduire. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de naturel en moi. Donc, je travaille à l'échelle du lieu qui m'est proposé. Donc, ça peut être parfois tout petit, mais parfois très grand. Et là, j'étais invité au cœur d'une ville. Une ville, c'est pas simple pour s'y glisser et exister encore. C'est quelque chose qui a beaucoup de force, ne serait-ce que son bruit, sa rumeur, son mouvement, ses couleurs, son climat. Et voilà, je ne pouvais finalement être qu'à l'échelle d'un bâtiment qui a déjà une certaine force dans cette place.
Alors, quand on parle des matériaux, Vincent Holliday, vous faites un travail assez riche en termes de matériaux, puisqu'il y a à la fois le baroque, le rococo, mais en même temps, il y a ce choix de matière parfois très ordinaire, voire un peu kitsch, oui, dans les tissus. Le lit à baldaquin, ouais, relativement, oui, fast, il est habillé de voiles, presque de tissus de déguisement d'enfant.
Oui, alors il y a de l'organza, de la mousseline, des choses dorées, pailletées, etc. Mais comme, en fait, avant que ce soit les matériaux physiques qu'on utilise, c'est aussi les matériaux qu'on connaît. Enfin, c'est devenu un matériau mental. C'est ce qu'on connaît d'un lit à baldaquin, ce qu'on imagine d'un lit de princesse, d'un lit de château. Donc c'est comme ça une liste d'idées de dire finalement des colonnes tournées, le doré fait partie du lit. Et donc après de les reprendre comme tels et de les utiliser pour compléter cette idée déjà qu'on a d'un lit à baldaquin et de proposer ensuite visuellement à quoi ça peut ressembler.
Alors il y a le lit à baldaquin, mais il y a aussi le même choix de matériaux brillants que l'on retrouve même dans la peinture ou dans les matières qui servent de confiture.
Oui. Il y a comme ça toujours un rapport aussi avec le travail que fait une œuvre, en fait, finalement, de se présenter au spectateur ou de faire venir le spectateur à elle. Et donc, il y a un jeu comme ça sur attirer et puis en même temps tenir une distance. Et c'est pour ça que je pense que j'adore utiliser tous ces matériaux qui sont un peu clinquants, qui brillent, qui sont dorés, pour avoir déjà cet aspect visuel qui est propre aussi au baroque, d'avoir quelque chose comme ça de très séduisant à l'œil. Mais qui, une fois qu'on s'approche un peu plus et qu'on rentre un peu ou qu'on gratte la surface, on voit qu'il s'y passe autre chose.
C'est presque la même chose avec les éléments de nourriture, hein. Il y a quelque chose d'attrayant et d'un peu presque écœurant quand on en est trop proche. Ouais. La chantilly apparaît aussi, la cerise.
Ouais, tout le monde peut en faire l'expérience. Enfin, se dire, j'ai pas le monopole de la chantilly et des cerises, mais chacun peut s'amuser à en rajouter et à en faire des couches jusqu'à voir, dans cette espèce d'élan transgressif, comment est-ce qu'à la fois c'est drôle et comment est-ce qu'à la fois tout d'un coup ça crée quelque chose qui dépasse la chantilly.
Alors le lit, c'est encore une autre histoire puisque ce lit, il est quand même flottant. Il y a quelque chose d'un peu du conte de fées, un peu halluciné comme ça quand on sort de la gare et qu'on le voit flotter. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il se trouve sur ce canal? Pourquoi, enfin en tout cas, pourquoi un lit aquatique?
Alors pourquoi un lit aquatique? Alors c'est une pièce qui n'a pas été faite pour le voyage à Nantes, mais qui a été restaurée pour le voyage, donc qui a déjà parcouru et qui a déjà été exposée dans pas mal d'endroits, en Europe, en France aussi. Et un peu, c'est à la fois une inspiration un peu comme Little Nemo, quelque chose de très onirique finalement, où le lit devient un objet qui se déplace et qui recontextualise l'environnement dans lequel il se trouve. C'est tellement privé et privatif le lit que le remettre comme ça dans un espace public et en plus de le voir au vu et su de tout le monde, qu'il y a aussi cette question sur l'espace finalement qu'on occupe soi-même et comment est-ce que l'extérieur nous occupe aussi. Donc c'est pour ça l'eau est particulièrement, enfin idéale, parce que le lit devient complètement dans un contexte complètement inapproprié pour y dormir, et en même temps avec toujours ce jeu entre à la fois à vouloir y dormir, vouloir y aller, et puis se poser la question réellement de si j'y passe la nuit au milieu d'un étang, ça va pas non plus être la meilleure nuit. Il y a tout comme ça une réalité de l'environnement dans lequel il est installé.
Il y a presque quelque chose d'oublié, hein, comme s'il était perdu au milieu du canal. Il y a presque une dimension funèbre d'une certaine manière, hein, au milieu de cette eau.
Oui, ça fait partie de sa dimension. C'est aussi la temporalité de l'œuvre, et c'est comme ça de toujours estimer sculpter en deux temps. Finalement, finir une œuvre à l'atelier, puis après la laisser presque abandonnée dans l'espace public pendant 2 mois. En tout cas, avec la météo, les aléas, etc., de la voir encore se construire et de la voir se pâtir. Comme le reste, comme les autres œuvres, finalement tout est amené à évoluer, donc ça c'est une évolution de l'œuvre aussi.
Alors est-ce que ça c'est quand même difficile pour les artistes, tout autant que vous êtes, que de laisser une œuvre en extérieur, de ne pas savoir ce qui va s'y passer? Vous avez travaillé avec de la pierre volcanique en extérieur pour les brutalistes, les œuvres
brutes.
Voilà, les œuvres peuvent être aussi utilisées, touchées, dégradées, on ne sait pas.
Bah oui, c'est, ça fait toujours partie un peu du risque, mais en même temps, c'est aussi sympa. C'est ce qu'il y a de beau dans faire des œuvres dans l'espace public, c'est qu'on les donne vraiment au public. Ils sont là à disposition de tout le monde. Ils sont pas enfermés dans un centre d'art ou dans un musée. Donc
il y a le plaisir de les voir aussi en mouvement et utilisés.
Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu aussi pour ça qu'on avait fait les brutalistes. Hein. C'est vraiment pour les voir, pour voir du monde autour, les utiliser en tant que sculpture dans laquelle on peut faire à manger, quoi. Ce qui est quand même assez spécial. C'était une idée. On avait déjà fait une œuvre auparavant qui était un bus dans lequel les gens pouvaient s'installer. On avait en fait vraiment reconstitué un bus, moulé un bus qu'on avait installé sur une plage, et il était sans arrêt utilisé pour pas mal de choses d'ailleurs. Et il a été très très utilisé, on peut dire.
Vincent Olivier, est-ce que ça fait partie des choses qui sont techniquement compliquées parfois, ce lit justement sur lesquels certains ont essayé de grimper en s'approchant avec une petite barque? Alors certes, c'est aussi ça d'avoir une œuvre dans l'espace public, mais encore faut-il que l'œuvre tienne.
C'est ça, l'œuvre pour le coup est très fragile, donc il n'est pas prévu que les gens montent dessus, donc faut voir un peu comment on va traiter cette question.
La question de l'éphémère et la question de la longévité, on a vu des œuvres du voyage à Nantes qui existe depuis un certain nombre d'années, que l'on revoit. Je pense aux œuvres de Philippe Rapmet, par exemple. Peut-être vous pouvez nous en parler. Vous l'avez revu l'autre jour, justement, l'éloge de la transgression.
Oui, tout à fait. Je suis retombé par hasard dans ce parc. Voilà, et j'ai été ému. J'avais presque oublié. Pourtant, elle m'avait touché la première fois. Et voilà, de la revoir, c'était une vraie surprise. Et ce qui est assez beau, d'ailleurs, dans ce...
Peut-être dire ce que c'est, raconter ce que c'est. Sur une colonne coupée, une petite fille dont on ne sait si elle monte ou descend.
Exactement. C'est un socle, de le plus classique soit-il. Et il y a donc cette petite fille comme descendue ou remontant sur son socle. Donc moulé en bronze, d'une facture très classique, voilà, une figure très, enfin une sculpture très figurative, voilà. Mais ça a été une vraie, voilà, un vrai plaisir de retomber, et c'est ce que j'aime aussi à Nantes, c'est à quel point on peut se laisser à nouveau surprendre au coin d'une rue, d'une œuvre qu'on avait oubliée, laissée là, et paf, elle se ressurgit. Donc c'était un vrai plaisir de reparticiper à nouveau à cette aventure.
Puisqu'on parlait de l'expérience faite des œuvres en lieu public, donc vous voyez les gens déambuler devant et derrière le rideau de votre théâtre. Certains même l'ont traversé alors que ça n'était pas tout à fait autorisé. En tout cas, il y a le plaisir quand même sensoriel de cette expérience physique de l'œuvre, et ça fait partie de l'œuvre à part entière, Stéphane Tidé.
Oui, évidemment. Moi, j'aime.
C'est l'avantage de l'eau aussi.
Alors, c'est l'avantage de l'eau, c'est-à-dire que Il y a quelque chose qui à un moment a cette humidité, mais ce son, ce mouvement, donc elle remplit un peu tous les sens. Et donc oui, je crois qu'il y a aussi cette force. Les gens restent finalement assez à distance, à part quelques-uns qui aiment tenter aller dessous. On n'interdit rien, mais on déconseille aux gens parce que c'est tout simplement dangereux. C'est pas la représentation d'une force, c'est une force. Voilà, donc elle comporte ses dangers. J'aime aussi que tout ne soit pas... Parfois, on a un peu, comment dire, on a l'impression que dans l'art, tout le danger disparaît, comme si les choses sont prévues. Et moi, j'aime remettre un petit peu ces notions d'attention, de tension, voilà, et qu'on ne soit pas forcément dans de la représentation, mais du réel.
Puisqu'on parlait des différentes expériences faites avec l'eau, on va écouter un extrait justement de Tant que les îles.
La pluie continuait, point. C'était une pluie dure, virgule, perpétuelle, virgule, sueur et vapeur, point virgule, averse, virgule, une cataracte, virgule, des cordes, virgule, un fouet pour les yeux, virgule, des lacets pour les chevilles, point virgule, une pluie à noyer toutes les pluies et leurs souvenirs, point. Elle tombait par nappes, virgule, à la tonne, virgule, elle hachait la jungle, virgule, sectionnait les arbres, virgule, tondait l'herbe, virgule, burinait le sol et fondait les broussailles, point. Elle rétrécissait les mains des hommes à la dimension d'une patte ridée de singe, point. Elle était solide et vitreuse, virgule, et ne cessait jamais, point.
Stéphane Tidé, quelques mots de ces musiques que vous avez aussi composées. Vous travaillez aussi sur ce poème de Ray Bradbury qui parle de l'eau et de la pluie, encore de l'eau. Peut-être quelques mots de cette composition sonore cette fois-ci.
Oui, mais c'est un travail que je ne cesse de mener aussi en parallèle de mes aventures plastiques. C'est-à-dire, je crois que je suis attiré par les flux en tout genre, les flux et les énergies, et la question même, je dirais, de la sculpture. Dans le sens où le son devient comme un objet modifiable, sculptable. Hélas, peut-être. Alors ce texte que je lis de Ray Bradbury, en rajoutant la ponctuation, c'est peut-être aussi. J'essaie peut-être de tirer un lien là comme ça avec cette chute d'eau, mais finalement chaque virgule, chaque point devient un peu comme une goutte d'eau, comme une sorte de temporisation, de marqueur de temps qui devient très rythmique, un peu comme une phrase musicale.
Alors pourquoi ce travail en particulier de continuité avec l'eau? Il n'y a pas eu que ça bien sûr, mais il y a eu aussi le refuge, c'était une cabane à l'intérieur de laquelle il pleuvait. Il y a eu aussi Solitaire en 2016 qui utilisait l'eau un peu comme une sorte de socle, enfin de page blanche pour le coup. Hein, tous ces gestes-là, vous les nommez sculpture. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? J'ai une petite idée.
Bah, je laisse le soin aux spécialistes de nommer les choses. Finalement, moi, je sais plus les faire que les nommer. Peut-être que si je travaille avec des éléments ou des matières, c'est aussi parce que les mots, parfois, me manquent. Et là, il se trouve que, oui, l'élément eau, il revient régulièrement. Mais je crois que j'ai pas fini d'explorer, en fait, ce dont parle Bachelard dans L'eau et les rêves, c'est-à-dire ce paradoxe entre quelque chose de joyeux, de contemplatif, d'hypnotique, et en même temps une sorte d'abîme impossible, quelque chose qui peut déferler, qui peut dépasser notre possibilité de le contenir, et en même temps cette attirance vers quelque chose d'une certaine noirceur aussi.
Mais l'eau se charge de ce qui l'entoure, d'ailleurs. C'est ce que vous disiez pour les événements aussi.
Tout à fait. Et aussi, proposer finalement une force comme ça au sein d'une ville, dans une situation urbaine, il y a quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire qu'il y a aussi une inquiétude possible qui accompagne ce caractère hypnotique du mouvement de l'eau.
Vincent Olinet, vous sur la question de l'eau aussi, est-ce que intégrer l'eau à l'intérieur de la création, c'était l'idée d'une sculpture aussi ?
Oui, c'est pareil, c'est toujours une approche de la création par la sculpture. Et l'eau est un matériau aussi, autant par ce qu'on en connaît que la façon dont l'utiliser. Donc de deux manières, avec l'eau du canal, mais aussi la glace. Et aussi d'autres travaux qui sont pas dans le cadre du voyage à Nantes où l'eau a été utilisée, mais vraiment.
Donc c'est dans ces transformations qu'elle vous intéresse en particulier, l'eau?
Oui, et puis aussi pour tout son affect ou tout ce qu'on peut y rattacher et tout, comment on peut lire l'eau et ça aussi, sa versatilité. Et finalement, elle peut être de partout et de toutes les manières.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus aujourd'hui, Stéphane Tidé, Vincent Olinet, Martine Fépel et Jean Béchameil. Je renvoie le public à vos œuvres qui sont exposées au Voyage à Nantes et à l'ensemble des œuvres qui y sont jusqu'au 27 septembre prochain. Tout de suite, c'est la fiction Imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD en partenariat avec le Théâtre de la Ville en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, Les larmes de Stanislas Coton.
Les larmes, une fiction écrite par Stanislas Coton.
Est-ce déjà l'heure? Ah oui, c'est l'heure. Allons, Dupont 18. On prend le dos sur le dessus de la pile. Voilà. Alors voyons ça. Oui. Où est-ce qu'elle sort, celle-là? Eh ben, ça promet. Oh, les cœurs. Allons-y. Gardien?
Oui, monsieur.
Dossier 77QB2023.
Tout de suite, monsieur.
Merci, gardien. Vous pouvez disposer. Asseyez-vous. Un problème? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour, monsieur.
Silence, s'il vous plaît. DLR2, l'inspecteur du ministère ici présent, enregistrera notre conversation.
Bonjour, inspecteur.
Vous êtes prié de vous taire. Vous n'êtes autorisé qu'à répondre aux questions qu'on vous pose. Je précise que l'inspecteur est un androïde et qu'il est programmé pour écouter, pas pour parler.
Si c'est trop vite, je ne comprends pas.
Silence. Début de l'enregistrement. Dossier 77QB2023, instruit par Dupont 18.
Si c'est trop vite, je ne comprends pas.
Je suis votre instructeur interrogateur. Nom, prénom, qualité.
Ce n'est pas compris.
Votre nom?
Armanda Di Porto Rodriguez Zapata. Technique de surface.
Vous êtes sortie de réclusion parce que le régulateur estime que vous êtes prête pour la rééducation.
C'est pas bien compris.
Ça veut dire que vous avez de la chance. Ici, vous êtes 77QB2023. C'est votre matricule. Vous m'entendez? Il est nécessaire pour toute action de votre quotidien, pour boire, pour vous nourrir, pour vous laver, pour dormir, pour accéder aux toilettes. Il vous faut votre matricule. C'est compris? Non? Matricule 77QB2023. Vous comprendrez vite.
77QB?
77QB2023. Afin de vous faciliter l'existence, DLR2 va vous implanter votre puce.
Non.
Il n'y a pas de nom. Vous n'avez peut-être pas saisi.
Je n'aime pas puce.
Vous n'aimez pas puce. Vous préférez regagner la réclusion? C'est totalement indolore.
Je préfère pas puce, s'il te plaît.
Première leçon, ici, vous ne contestez pas, vous vous exécutez.
Aïe!
Une petite tendance rebelle, peut-être. Merci, inspecteur. Selon votre dossier, 77QB2023, vous êtes préposé à la désinfection dans l'unité de transit numéro 7.
Je travaille maison pour le repos des vieilles personnes.
Je vous arrête tout de suite. Cette terminologie n'est plus autorisée.
Ce n'est pas compris.
UDT, unité de transit. Voilà la nomenclature exacte. UDT, vous répétez.
UDT.
Unité de transit, vous répétez.
J'ai dit présente, c'est Armanda. Je prends travail dans maison pour le repos des vieilles personnes. Bonjour. Voilà.
Non.
Nettoyage, désinfection.
Je viens de vous dire UDT, unité de transit.
Ce n'est pas compris.
Vous répétez unité de transit, répétez.
Unité de transit.
Les unités de transit sont en connexion avec le hall des départs.
Le hall des départs.
Vous travaillez dans l'unité de transit numéro 7.
Numéro 7.
Unité de transit numéro 7.
Unité de transit numéro 7.
Vous êtes un cas, vous. Forte tête. On dirait bien que ça rentre. Mais je souligne. Forte tête. Je souligne.
J'ai... Ce n'est pas compris, monsieur. C'est monsieur...
Dupont 18.
Ce n'est pas compris, monsieur Dupont 18.
On vous expliquera. J'en ai pas fini avec celle-là. C'est une abrutie ou quoi? Je vais vous expliquer. Vous travaillez dans l'unité de transit numéro 7.
Vous travaillez dans l'unité de transit numéro 7.
Je, c'est vous. Vous êtes je. Je travaille...
Je travaille...
On avance. Je travaille dans l'unité de transit numéro 7.
Je travaille dans l'unité de transit numéro 7.
Bien. Où étiez-vous détaché durant la crise sanitaire?
À la maison pour le repos, les vieilles
personnes...
À la maison pour...
Mais vous êtes bouché?
Le repos?
Taisez-vous. S'il vous plaît, taisez-vous. Forte tête. Deux fois, forte tête. Je souligne deux fois. Bon, suspendez l'enregistrement, inspecteur. Merci. Je reviens. N'est-ce pas? Mmh. On lui a pas demandé d'inventer la poudre, mais tout de même, si ces gens sont tous de cet acabit, je tiendrai pas. Bon, les comprimés. Est-ce qu'ils m'ont seulement donné la dose? Ben oui, en arrivant tout à l'heure, ils me l'ont donné, mais... Un instant, n'est-ce pas? J'arrive. Où ai-je mis la dose? Voilà. Et ben voilà. Hop. Bon. Et je croise les jambes. Je suis de marbre. Elle est pas mal. Ça compense. Si en plus elle était moche, alors je serais vraiment maudit. Des guiboles, des nichons. Des Amériques du Sud. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha. Elle a une belle bouche. Elle a vraiment une belle bouche. Elle a une grande bouche. Et on appelle ça comment, Dupont? On appelle ça une bouche à pipe. Elle a une grande bouche.
Je travaille, unité de transit numéro 7.
Une grande bouche ne certifie pas la possession des neurones. C'est pas ce qu'on lui demande, à la grande bouche. Bon, arrête de dire des conneries. Et tu restes de marbre, Dupont. Vous pouvez répéter?
Unité de transit numéro 7.
Mais bravo! Parfait. Reprenons l'enregistrement, inspecteur. Donc, nous disions UDT numéro 7, détaché au nettoyage et à la désinfection.
Ça, je connais, vocabulaire. Le seau, l'eau javel, raclette, serpillière, vaporisateur pour solution alcoolique, désinfectant. C'est le travail. Travail matin, travail soir. Bonjour le matin, les vieilles personnes.
Les passagers. Vieilles personnes ne convient pas, c'est interdit. Les passagers. Quoi de plus de passage qu'un passager? Il y a aussi aspirant au départ, si vous préférez. Aspirant au départ, c'est également autorisé.
Passagers.
Bravo.
Les passagers. Bonjour le matin, les passagers. Bonsoir le soir, les passagers. Salutations. C'est petite routine amicale. Ça va-t-il, ça va-t-il pas? C'est petite joie, les vieilles personnes.
Non.
Armanda Di Porto Rodriguez Zapata.
Mais non.
77 QB20.
Non, je dis non. Nous parlons de passagers. Ils sont de passage, vous comprenez? De passage.
De passage.
Stop.
Stop.
J'ai dit stop. Oh, nom de Dieu. Gardien?
Un problème, monsieur? Monsieur?
Oui, Non, tout va bien. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bon, cessez de me répéter. S'il vous plaît, ne répétez pas quand je ne vous le demande pas. Bon, pause. Un moment. Quelle heure est-il? Oh, la journée sera longue. Je me demande s'ils m'ont donné les mêmes cachets que la semaine dernière. Ou alors, c'est pas la bonne dose. Et il pleut. En plus, il pleut.
Tu peux marcher? Je raconte. Marche, monsieur de Pont 18. Je raconte. Tu veux? Ces petites joies des passagers. Moi venu, tous. Ah, si, olé, la voilà. Bonjour. C'est désinfection, nettoyage. Toujours le sourire pour moi. Ça va? Ça va? Olé, c'est bien. Madame Propreté, c'est le soleil. Mais oui, m'appelle Madame Soleil.
Eh bien, Madame Soleil, aujourd'hui, il pleut.
Avec soleil, c'est bien. Chantez. Que te importa que te ame. Mais oui. Tu aimes une chanson, monsieur Dupont 18?
Pas le temps d'écouter la musique.
Donnez une parole. Un geste. Oh, c'est chic, petite robe. Ah, petits enfants sur la photo, c'est joli. Tout joli. Tcha-tcha-la. Petite parlotte. Pequeño consuelo. Petite parlotte, c'est réconfort.
Bon, bon, bon. C'est bien. Je pense qu'on va se calmer et revenir à nos moutons.
Yo técnica, pero yo amiga. À force, tous les jours, on attache. Les petits vieux, les petites vieilles. On attache l'être humain. C'est parce que... Corazón.
Ça suffit maintenant. Taisez-vous. Suspendez l'enregistrement, inspecteur. Une incontinente. Je déteste quand ces gens se lâchent comme ça. Cette mélasse, ce sirop, aucune dignité. Il va falloir redresser, appliquer le redressement. Bon, ouvrez vos oreilles et notez, inspecteur. De la graine de contestataire. Vous savez pourquoi vous étiez en réclusion?
Pourquoi réclusion?
C'est ce que je vous demande.
Ne pas savoir.
Vous avez dérogé au règlement, c'est grave.
Règlement?
La désobéissance ne peut être tolérée, et tout manquement est inacceptable.
C'est pas compris.
Vous avez mis des vies en danger. Vous avez exposé vos semblables à la contamination.
Je désinfecte.
Le 16 avril, en fin de journée, plus exactement à 17h26, vous avez été prise en flagrant délit dans le box A327 d'un passager manquant.
A327? A327. Claro. Monsieur Fernand. Un jour là, et lendemain parti. Petit monsieur très gentil. On attache. Je ne suis pas l'ignorance de la règle. J'ai fait travail désinfection. Pero chez moi, c'est l'éducation. Comme vieille personne partie... C'est pleurer. Todos.
Bon, on va pas y passer la journée. Reconnaissez-vous avoir versé des larmes? Avoir ôté votre masque et avoir versé des larmes? Les larmes sont le principal vecteur de contagion. Vous le savez, ça, vous désinfectez. Vous avez compromis par votre acte la sécurité de tous.
Je n'ai pas malade.
Et si vous l'étiez?
Je ne suis pas l'ignorance. Écoute, dans mon pays, tous les jours, c'est donner la main. C'est aider vieilles personnes, c'est vivre avec vieilles personnes, c'est jamais abandonner, jamais oublier. C'est de notre nature. Chez vous, c'est vraiment très tristement.
Vous voulez ma peau? Vous...
Chez moi, c'est vivre même maison, toute la famille. Quand vient la muerte, c'est toute la famille pleurer.
Vous êtes obstinée. Vous contrevenez systématiquement au règlement. Ce n'est pas comme ça que vous allez vous en sortir.
Je ne suis pas l'ignorance.
Est-ce que vous comprenez que vous risquez de ne pas vous en sortir? Croyez-moi, je pense que le rapport de l'inspecteur des LR2 sera accablant. Je crains que la chance offerte par le régulateur ne vous échappe, malheureusement, et que votre entrée dans notre maison de rééducation soit compromise. Alors s'il vous plaît, vous allez faire un gros effort, vous n'êtes pas une imbécile. Vous êtes plutôt bien faite. Ne gâchez pas tout ça. Faites-moi plaisir. Saisissez-moi cette chance. D'accord ?
D'accord.
Je vais reprendre.
Je vais reprendre.
Vous travaillez dans l'unité de transit numéro 7.
Je travaille dans l'unité de transit numéro 7.
Les box sont occupées par des passagers.
Les box sont occupées par des passagers.
Les passagers attendent pour se rendre dans le hall des départs.
Les passagers attendent pour se rendre dans le hall des départs.
En toutes circonstances.
En toutes circonstances.
Les larmes sont formellement interdites.
Les larmes sont formellement interdites.
Il y va de la sécurité de chacun.
Il y va de la sécurité de chacun.
En toutes circonstances, les larmes sont interdites.
En toutes circonstances, les larmes sont interdites.
En toutes circonstances, les larmes sont interdites.
Les larmes de Stanislas Coton, réalisation Juliette Eman, générique à retrouver sur franceculture.fr.
Vous retrouverez un prochain épisode de la fiction Imagine. Demain, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, l'écrivain voyageur Patrick Lee Fermor.
Hugo le disait un jour, je cite, « J'aime les petits pays entourés de grands spectacles, un canton suisse, Guernsey. » Nous sommes dans l'un de ces petits pays au kilomètre 453 de notre périple sur l'une des boucles de la Seine entre Paris et Rouen, près de Jumièges, à l'abbaye de Saint-Vendry. C'est un petit pays, un petit royaume, et tout autour le spectacle de la Seine et de l'histoire de France mêlée, ce spectacle auquel nous l'avons vu, nous avons pris tant de plaisir en lisant les aventures d'Arsène Lupin. Et c'est vrai que jusqu'ici, l'histoire nous a été surtout une occasion de rêverie, puisque à ma génération, tout au moins, nous n'en avons guère connu les drames. Je vais donc, en manière d'excuse, faire revivre pour vous la mémoire d'un héros et d'un écrivain qui a vécu un temps dans cette abbaye et qui est assez peu connu du public français, mais comme dit Offenbach dans La Belle Hélène, n'anticipons pas. L'abbaye d'abord. Et je dois vous faire un aveu, je ne suis pas entièrement sensible à son air grand siècle. Et certes, ce que nous voyons là, Vincent Deck, le réalisateur, et moi, devant nous, est splendide. Un portail magnifique et une cour qui descend vers un ruisseau, un grand cloître classique sur la droite, des bâtiments imposants et une église abbatiale que les moines s'occupent à relever. L'argent leur vient de la bière et je recommande à vos prières et à votre portefeuille le frère Benoît, qui est mon ami et qui est le meilleur des hommes. L'argent leur vient aussi de la restauration de tableaux, qui est assurée par un grand spécialiste, le frère Pascal, qui est un homme charmant, qui montre volontiers les toiles d'André Masson sur lesquelles il travaille en ce moment, et l'on se réjouit de voir le surréalisme apparaître là où on ne l'attendrait pas. Mais quelle que soit la gentillesse, la vitalité de cette communauté de moines bénédictins, je dois m'avouer toujours désorienté par cette architecture somptueuse qui paraît prête à servir à tout. Un palais, un manège d'équitation, une caserne de chevaux légers ou une orangerie. Je dois avouer que je préfère le style lourd et sans charme des bâtiments de la réforme de Don Guéranger, ces bâtiments du XIXe siècle qu'on voit à Sainte-Anne de Kergonan par exemple et qui me semblent mieux correspondre à leur objet. Mais je suis d'ailleurs un peu injuste parce que le côté grand siècle relève de l'impression. Il y a tout à Saint-Vendry, dans le vallon de Fontenelle, au bord de la forêt de Bretonne. Il y a un portail du XVIIIe, il y a un cloître sublime dont je parlais et dont la galerie sud est du XIVe siècle. Et surtout, détail qui a enchanté notre ami Bagramko, qui a séjourné ici en 1938, une porte d'entrée dans l'abbaye surmontée d'un pélican symbolique et inattendu qui évoque le sacrifice du Christ. Les moines sont établis ici depuis 649 et les habitants du lieu appelaient cette vallée la vallée des saints. Ils ont duré jusqu'à la Révolution. Au XIXe siècle, un marquis de Stackpool, un Anglais, racheta l'abbaye et lui construisit un porche monumental. C'était l'époque où la religion pouvait être un bel élément de décor, un peu comme dans le génie du christianisme de Chateaubriand, et les Anglais s'en faisaient une spécialité, puisqu'ils allaient même jusqu'à louer dans leur parc les services de figurants spirituels qu'on appelait des ermites ornementaux. Au moment des lois anticléricales, l'abbaye devant laquelle nous sommes a été un moment la propriété de Maurice Maeterlinck, l'écrivain, qui passait ainsi de la vie des abeilles à la vie des abbayes. Il y vivait avec Georgette Leblanc, cantatrice et sœur de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Après 23 ans de vie commune avec Maeterlinck, Georgette Leblanc, cofondatrice d'un groupe saphique nommé L'Accordé, devait acheter le phare de Tancarville, non loin d'ici, pour y vivre avec sa compagne Margaret Anderson, ayant une pensée pour les premières de cordée. Lorsqu'il habitait dans le cloître, Maeterlinck se signalait par un comportement original. Il parcourait le dit cloître en patin à roulettes, en robe de chambre à ramages et le cigare au bec tiré par un attelage de quatre chiens. Il y a un dieu pour les maboules, ce qui est bien réconfortant. C'était l'un des charmes de cette époque d'ailleurs, juste avant les grands carnages. On ne se souvient malheureusement guère de la joyeuse bande des arts incohérents qui se réunissaient à Paris ces années-là et exposaient, au sens propre, n'importe quoi dans la galerie Vivienne. Ils donnaient, façon Maeterlinck, des bals costumés où l'on entrait en lisant des inscriptions magnifiques. La mélancolie n'entre pas ici, ou prière de ne pas cracher au plafond. Ils se sont dissous en proclamant la fin de l'incohérence. À l'issue d'un de ces bals, à voir le point où nous en sommes, il est clair que cette annonce était largement prématurée, mais nous pouvons saluer Maeterlinck, saint patron des rollers et des glisseurs de notre monde. Mais si nous sommes venus ici, ça n'est pas seulement pour les moines, le frère Benoît, le frère Pascal, la bière, les tableaux, l'architecture du grand siècle et cette atmosphère de spiritualité, c'est pour un autre genre d'homme et un autre genre de livre que ceux de Maeterlinck. Et je voudrais vous dire un mot de Patrick Lee Fermor. C'est le maître des écrivains voyageurs anglais, au point que Bruce Chatwin se fit enterrer près de lui à Cardamyli dans le Péloponnèse. Et sa vie aventureuse mérite à elle seule, comme on dit dans les guides, le voyage. La notice rédigée à l'occasion de son anoblissement en 2004 le présentait comme un mélange d'Indiana Jones, de James Bond et de Graham Greene. Âgé de 22 ans, renvoyé de plusieurs écoles, il entame en 1933 le périple à pied de Calais à Constantinople, d'où il tirera son chef-d'œuvre, Le temps des offrandes. En 40, il s'engage et est affecté au service secret militaire. Parachuté en Crète occupée en 1942, il organise pendant 2 ans et demi les maquis anti-allemands de Lille, puis en 44, dans un exploit digne des canons de Navarone, et qui a d'ailleurs donné lieu à un film hollywoodien où son rôle est joué par Dirk Bogarde, il enlève le général Kreipe, commandant des forces allemandes en Crète, et après une incroyable course-poursuite dans la montagne, parvient à le ramener à Alexandrie. Après la guerre, il réside d'abord aux USA, et on lui doit le scénario du film de Houston « Les racines du ciel » tiré du roman de Gary, puis en France et en Grèce. C'est en 1951 que, travaillant sur un livre qu'il n'arrive pas du tout à achever, il se voit recommander l'abbaye de Saint-Vandry. C'est un ancien héros, agnostique, légèrement dépressif, porté sur les femmes et la bouteille. Il s'y rend sans conviction pour y passer une semaine. Il y restera plusieurs mois, et le livre qu'il en a rapporté, Un temps pour se taire, A Time to Keep Silence, est l'un des plus beaux, des plus simples et des plus sensibles qu'on ait consacré à la vie des moines. Tout est là. La tristesse des débuts d'une retraite, l'angoisse qui monte, le désœuvrement, les questions qui naissent dans le silence, puis ce langage nouveau et familier qui prend corps dans la nuit de la méditation. Le passage de l'un à l'autre état, bien sûr, est rendu plus facile par les aménités de la vie, les rares conversations d'abord, et Lee Fermor en raconte quelques-unes qui font regretter d'être né trop tard pour avoir connu Saint-Vandry en 1951. Par exemple, celle qu'il a, lui, le héros de la guerre, avec un abbé allemand anti-nazi, réfugié à Saint-Vandry depuis l'avant-guerre. Que se passe-t-il en nous lorsque nous expérimentons une vie radicalement différente de la nôtre? Un ébranlement de tout l'être, un voyage immobile, ici, sur les bords de la Seine. Aux amis du monde, disait saint Augustin, il n'est pire labeur que de demeurer sans labeur. Et j'ai souvent pensé, pendant ces mois de confinement que nous avons vécu, Lee Fermor, qui pourtant avait vécu d'autres drames, paraissait nous adresser à distance de temps comme un encouragement. Et si vous ne le connaissez pas déjà, vous devriez lire ce petit livre, Un temps pour se taire, qui se range au faible nombre de ceux qui sont profondément utiles à ce que les anciens appelaient la bonne vie. Il a été écrit ici, là où nous sommes, et au fond, y penser maintenant me fait admettre que je me trompais au début de mon propos. L'esprit des lieux ne doit rien à l'architecture. On peut oublier l'architecture. Il doit tout à la concentration des songes et des espoirs, une génération après l'autre, et pour reprendre un des grands titres de Lee Fermor, Entre fleuve et forêt.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été consacrée au film Voir le jour de Marion Lenne. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillan, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Lise Combe, à la technique Théo Gomard. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.